VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 11h en temps universel, bonjour à tous. Prise d'otages et fusillades à l'hôtel Radisson de Bamako, au Mali, au centre de la capitale. Les forces de l'ordre y ont donné l'assaut aujourd'hui. On retrouve tout de suite donc dans la capitale malienne notre correspondant Kassim Traoré.
Bon, Jean, on peut dire que l'assaut quand même vient d'être lancé par les forces spéciales, la force spéciale de la DGSE malienne, accompagnée par la police et la gendarmerie, plus les sapeurs-pompiers. En tout cas, ils ont demandé avant de lancer l'assaut aux populations et à toute personne qui travaille au niveau de l'ACI 2000, qui est le quartier administratif à Bamako, de se mettre à l'abri, de s'éloigner même totalement de la zone pour éviter toute dérapage. Parce qu'on sait qu'en la matière, ce n'est pas une situation maîtrisable à 100%. Et les militaires peuvent faire face en cas de problème, mais la population civile était priée de se mettre à l'abri et de s'éloigner du bâtiment qui est l'hôtel Radisson. En tout cas, l'assaut continue actuellement au niveau de l'hôtel Radisson.
Alors, est-ce que les résidents de l'hôtel, les clients, ont pu être sécurisés? Est-ce qu'ils ont été libérés avant l'assaut?
Oui, on peut dire qu'il y a certains otages qui ont pu être libérés, plus d'une dizaine. Parmi lesquels, hein, il y a le chanteur guinéen Segouba Bamino qui est venu à Bamako. Il doit donner un concert demain samedi même au stade de Bamako. Il faisait partie des clients de cet hôtel. Il a quitté l'hôtel, il a même livré ses premières impressions parce qu'il est venu hier nuit. Il a constaté des coups de feu et c'est après qu'il y avait un homme en larmes devant sa chambre qui lui a demandé de dire Allahu Akbar, chose qu'il a pu dire. Et tous ceux qui ont pu dire Allahu Akbar, là, il a, il a, là, ont été libérés. Mais les autres, certains sont pris en otage. On ne connaît pas jusqu'à présent genre le nombre de victimes et on attend la fin de l'assaut mené par la DGSE malienne.
On peut dire que c'est une situation délicate actuellement.
Très délicate dans la mesure où personne ne s'y attendait à cela, même si on sait que ce n'est pas quelque chose de surprenant parce que voyant la situation du pays, les infiltrations, on se rend compte que les éléments terroristes sont parmi nous à Bamako ici. Et le contrôle qui se faisait aussi, il y avait un peu de ralentissement face à ces problèmes parce que les agents, les forces de sécurité maliennes, il faut le reconnaître, n'ont pas assez de moyens. Il y a un problème de moyens pour faire le suivi, pour faire le contrôle à longueur de journée. C'est ce qui explique cet état de fait aujourd'hui. Mais ils nous ont dit qu'ils feront tout pour quand même neutraliser ces terroristes qui se trouvent au niveau de l'hôtel Radisson.
Kassim Traoré qui nous fera le point tout au long de nos éditions successives. Selon une source sécuritaire malienne, des assaillants sont rentrés dans l'enceinte de l'hôtel à bord d'une voiture munie d'une plaque diplomatique. Et depuis le 7 mars, un attentat contre un bar-restaurant à Bamako avait coûté la vie à 5 personnes, dont un Français et un Belge. Il s'agissait de la première attaque de ce type perpétrée dans la capitale malienne. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda après la déroute de l'armée face à la rébellion, d'abord alliés à ces groupes qui l'ont ensuite évincé. Ils y ont été dispersés et ont été en grande partie chassés à la suite du lancement en janvier 2013 à l'initiative de la France d'une intervention militaire internationale qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères, longtemps concentrées dans le nord. Les attaques djihadistes se sont étendues depuis le début de l'année vers le centre, puis à partir de juin au sud du Mali. À Bamako, il est 11h03, temps universel.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La Confédération indépendante des syndicats du Tchad, CIST, a appelé ses membres enseignants qui étaient en grève depuis le 11 novembre à reprendre le travail ce vendredi. À l'origine de leur grève, le non-paiement des salaires d'octobre et des primes d'examen et concours. Pour des précisions, Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena le secrétaire général adjoint de la CIST, Mahamat Nasreddine Moussa.
En ce qui concerne les salaires, nous avons trouvé que c'est versé. Mais en ce qui concerne les primes des examens en concours, nous avons constaté que 4 régions n'ont pas reçu les primes des examens et concours. Jusqu'à le 18, le 19, on nous a fait savoir que tout est envoyé. Nous avons vérifié que les salaires et les primes des examens et concours sont payés. Donc, on s'est retrouvé, nous avons évalué et nous avons décidé de lever le mot d'ordre de grève. Comme le taxe est dit, 8 jours francs après le mois, les travailleurs ont le droit de ne pas aller au travail. Si jusqu'à le 8 de chaque mois, ils n'arrivent pas à payer les salaires, nous, automatiquement, on demande à nos militants d'arrêter le travail, sans préavis de grève.
Le secrétaire général adjoint de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad, Mahamat Nasraddin Moussa. Au Cameroun, des milliers d'enfants sont exposés à la tuberculose à cause du manque du vaccin BCG. Ce vaccin anti-tuberculose est introuvable depuis plus de 3 mois dans la région de l'extrême nord. La situation inquiète les parents dont les nourrissons sont vulnérables à cette pathologie. Le reportage de notre correspondant Mouki Edwin Kinzeka.
L'angoisse se lit sur le visage des mères d'enfants rencontrées au centre de santé de Pumpumri. Aissatou qui porte son bébé est révolté.
Mon enfant n'a pas eu le BCG. Plus de 3 mois depuis la naissance, quand je viens ici, on me dit qu'il n'y a pas le BCG. Je ne sais pas pourquoi.
Comme Aissatou, de nombreux autres parents n'en peuvent plus face à la rupture des stocks de vaccins BCG. Le couple Maimouna et Sanda Ibrahim, que nous rencontrons dans une autre formation sanitaire, est fatigué de faire de va-et-vient.
Chaque mardi, je viens ici. Comme on vient souvent, on ne trouve pas le BCG, on rentre.
Qu'on nous donne l'information, nous dit qu'est-ce qui se passe et que devons-nous faire.
Tous craignent que leur nourrisson contracte la tuberculose du fait de l'absence de vaccin BCG. Les autorités sanitaires se disent eux-mêmes conscients du danger, comme l'indique le point focal du programme élargi de vaccination au centre de santé d'Engwe à Maroua, Jérémy Gangui.
Entre l'enfant qui a reçu le BCG et celui qui n'a pas reçu, l'enfant qui a déjà reçu est plus protégé et moins exposé. En ce moment, nous avons une rupture, l'antigène BCG. Pour le moment, on nous dit d'attendre. Il y en a qui se fâchent et pensent que c'est seulement au niveau du centre ici.
Le personnel de ces hôpitaux est impuissant face à cette situation. Salamatou et Bakari sont deux aides-soignants.
On dit depuis Yaoundé, il n'y a pas de vaccin. On s'inquiète, mais on fait comment?
Nous réservons tous ceux qui ont 45 jours. On commence à leur faire les premiers vaccins qui sont les pneumons, le DTC, et nous mettons la polio.
Selon les experts, les nourrissons de l'extrême nord du Cameroun sont beaucoup plus exposés à la tuberculose. Cette partie du pays se distingue par la malnutrition, la promiscuité et les conditions d'hygiène précaires, qui sont entre autres facteurs favorisant la tuberculose chez l'enfant. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au moins 5 personnes, dont un citoyen américain, ont été tuées hier à Tel Aviv et en Cisjordanie occupée dans 2 attaques anti-israéliennes menées par des Palestiniens, Bagassi Koura.
C'est l'une des journées les plus meurtrières pour les Israéliens depuis le début, le 1er octobre, d'une escalade de violence ayant fait plus de 100 morts. Après quelques jours de relative accalmie, 3 personnes ont été tuées et plusieurs blessées en Cisjordanie près du bloc de colonies israéliennes du Gush Etzion. Selon l'armée israélienne citée par l'AFP, un Palestinien à bord d'une voiture a ouvert le feu sur un groupe de civils à une intersection avant de foncer sur un groupe de piétons. Les forces de sécurité présentes sur place ont ouvert le feu. Un des morts est un Israélien habitant la colonie proche du lieu de l'attaque et un autre, un citoyen américain selon la police israélienne, qui n'a pas révélé son identité. Le ministère de la Santé palestinien a dévoilé l'identité de la 3e victime, un Palestinien du nom de Shadi Zoudi Ratib Arafat, âgé de 26 ans et habitant d'Hébron en Cisjordanie. Le ministère a accusé l'armée israélienne de l'avoir tué. Au cours du même après-midi, un Palestinien a tué 2 Israéliens et blessé un 3e à coups de couteau à Tel Aviv.
Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a appelé aujourd'hui à Bruxelles l'Europe à prendre aujourd'hui les décisions qui s'imposent en matière de lutte contre le terrorisme après avoir trop perdu de temps. Cette rencontre extraordinaire des ministres de l'Intérieur et de la Justice européens a été convoquée à la demande de la France après les attentats qui ont fait 129 morts à Paris il y a une semaine. Et puis, selon les experts, les attentats du 13 novembre à Paris risquent de marquer le début d'une campagne d'action terroriste menée par le groupe État islamique dans les pays de la coalition qui le combattent en Syrie et en Irak. L'alerte confidentielle Intelligence Online, généralement bien informée selon l'AFP, écrivait hier que plusieurs services de renseignement arabes ont transmis des informations à leurs homologues occidentaux selon lesquelles 6 capitales ont été ciblées par Daesh. Il s'agit de Paris, Londres, Moscou, Le Caire, Riyad et Beyrouth. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 50 minutes environ et ce sera avec Henri Francisque. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.